Panorama économique.
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Panorama économique sur Radio Okapi. Les titres pour commencer. Le collectif des créanciers internes de la RDC demande au gouvernement congolais de payer sa dette. Ce collectif regrette le silence du ministre des Finances après la suite favorable réservée à leur requête par la présidence de la République. Retrouvez dans quelques instants l'interview avec le porte-parole du collectif dans votre magazine. La richesse minière de la RDC dans sa partie est contraste avec la pauvreté qui caractérise la population. L'exploitation artisanale de l'or dans l'est de la RDC se caractérise notamment par la pauvreté, les abus et l'écroulement des structures familiales et communautaires. C'est l'ONG Observatoire des ressources naturelles en Afrique australe, Sarrois en sigle, qui l'a dit. C'était cette semaine dans un rapport rendu public lundi à Kinshasa. Kinshasa a justement abrité lundi et mardi les rencontres d'hommes d'affaires entre Sud-Africains et Congolais. C'était dans le cadre de l'initiative d'investissement et de commerce, initiative dont les chefs d'État congolais-sud-africains avaient signé le protocole d'accord en 2005. Les informations des provinces en bref, des interviews et reportages sont au menu de votre magazine qui reçoit pour des analyses et commentaires Georges Bokuntu. Il est chef de bureau de l'Observatoire des ressources naturelles de l'Afrique australe. Il dirige le bureau de la RDC. Monsieur Georges, bonjour et bienvenue à la rétrospective de l'actualité économique sur Radio Capi.
Bonjour mon frère.
Bon week-end et bienvenue à toutes et à tous.
Panorama économique, le dossier.
Nous allons ouvrir panorama économique par ce premier dossier. Les membres du collectif de la dette publique intérieure de la RDC sollicitent du gouvernement congolais le paiement de leurs créances. Ils s'inquiètent du fait que le ministre des Finances soit resté insensible à leur dossier alors que la présidence de la République avait ordonné qu'il soit payé. Parmi eux, on retrouve entre autres les anciens membres de cabinet ministériel qui déclarent n'avoir pas touché leur indemnité de sortie. Le coordonnateur de ce collectif, Charles Kiamba, s'entretenait lundi avec François Kadima dans Écho d'économie.
Ce dossier a pris énormément de temps. Depuis l'époque du ministre Matenda, jusqu'à présent, rien n'a été fait. Malgré les différentes démarches que nous avons effectuées des gouvernements successifs, jusqu'à ce jour, la dette n'est toujours pas payée. C'est pour cela que nous avons estimé bon de nous adresser au garant suprême de la nation, le président de la République, en lui adressant le 22 du mois de mai 2013 un mémo. Dans ce mémo, nous lui avons demandé simplement sa faveur pour qu'il intervienne auprès du gouvernement de la République de manière que ceux-ci puissent nous payer la dette.
Qui sont réellement concernés par cette dette intérieure et elle est évaluée à combien?
Bon, d'abord, vous devez savoir que la dette que nous défendons et réclamons, c'est la dette publique intérieure évaluée et publiée au journal officiel de la République dans sa 45e édition du 28 juin 2004. Dans notre organisation, nous avons plusieurs adhérents. Mais pour le moment, nous avons demandé au président de la République d'intervenir pour 24 membres pour une somme de $644,000. La présidence nous a répondu très favorablement en nous adressant personnellement une lettre. Ensuite, à travers son cabinet, on a adressé également une lettre au ministre délégué aux Finances depuis le 22 juin 2013. Dans cette lettre-là, on a demandé au ministre de pouvoir examiner et de faire suite à la requête de la présidence de la République. Mais malheureusement, jusqu'à présent, le ministre, il n'a répondu ni à la présidence de la République, ni à nous-mêmes dans le sens de résoudre la question.
Après votre mémo adressé au président de la République, le directeur de cabinet du chef de l'État a indiqué avoir transmis les dossiers au ministre des Finances pour une suite favorable. Ouais. Rien n'est fait jusque-là. Alors, quelle autre démarche vous envisagez pour obtenir gain de cause?
Pour le moment, nous envisageons saisir un peu les conservateurs pour pouvoir examiner un peu notre cas et notre question. Il y a un nombre assez impressionnant et assez important qui est concerné par cette dette intérieure.
Merci François Kadima qui est d'ailleurs avec nous dans ce studio pour présenter Panorama économique. Je vais commencer quand même par vous dire bonjour François.
Bonjour Daniel.
Et je me retourne du côté de notre invité, Monsieur Georges Bokondou. Vous dirigez le bureau de la RDC, le bureau de l'Observatoire de ressources naturelles de l'Afrique australe, SARO en sigle, c'est une abréviation en anglais.
Oui, oui.
Et voilà, vous avez suivi ce dossier, le fait pour la RDC de reconnaître la dette intérieure, de la publier dans le journal officiel et depuis 2004, c'était quand même montré une bonne fois, mais jusque-là, de 2004 à 2013, presque 9 ans, l'État congolais n'arrive pas à s'acquitter de sa dette intérieure, puisque en 2010, la RDC a payé sa dette envers les créanciers internationaux. Qu'est-ce que ce dossier vous a inspiré comme commentaire, pour commencer?
Oui, je peux avoir un commentaire qui m'amène directement à dire, d'abord c'est les droits effectivement à ces collectifs de 24 de solliciter leur paiement, le paiement de leurs créances. Mmh. Il est vrai que lorsque le gouvernement publie déjà tout ce qui est comme dette intérieure, comme dette extérieure, c'est déjà quand même une reconnaissance et une bonne volonté. La plus grande question c'est cette programmation-là, que le gouvernement reconnaît la dette. Mais il faut commencer à payer quelque part, faire même une programmation. Chaque année, on peut payer 2-3 selon les budgets de l'État. Mm-hmm. Mais là où je ne suis pas tellement d'accord avec le président, c'est de dire qu'ils mm-hmm. vont se remettre aux concertataires. Mais je ne pense pas que...
Ce serait encore tirer les choses en longueur.
Non, non, les concertations ne sont pas là pour commencer à régler les questions de paiement, de dettes ou de créances. Il faut s'adresser, il faut toujours continuer. Ils doivent continuer leur plaidoyer auprès du gouvernement. Si la présidence a envoyé les dossiers au ministre des Finances, il faut qu'il fasse leur plaidoyer auprès du ministre des Finances. Si le ministre des Finances ne s'exécute pas, il s'adresse à son chef qui est le premier ministre.
Et nous allons prendre la deuxième info de la semaine. Les réunions de l'initiative pour l'investissement et le commerce se sont tenues lundi et mardi à Kinshasa, François.
Daniel, ITI est une organisation qui regroupe les hommes d'affaires sud-africains et congolais dans le cadre de relations commerciales dont les chefs d'État ont signé le protocole en 2005. Les commerçants sud-africains sont venus vendre leurs produits et services et les investisseurs pour explorer les opportunités d'investissement. Paul Matindo était à l'ouverture du forum.
Ce n'est pas la terre qui manquerait à la RDC pour donner aux investisseurs. La zone économique spéciale pilote de Maluku, grande de plus de 800 hectares, est le lieu le plus indiqué où les investisseurs peuvent placer leur argent. C'est le ministre de l'Industrie, PME, qui l'a dit dans son discours des circonstances. En dehors de cette zone économique spéciale de Maluku, le Congo entend en créer 4 autres, dont celle reliant Bumba, Bandaka et Bikoro dans la province de l'Équateur, sera ouverte aux investisseurs dans les secteurs de l'exploitation forestière. Une vingtaine d'entrepreneurs sud-africains exposent leurs produits depuis ce matin au Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa. Des discussions B2B se font entre les deux parties. Un petit bilan de ces rencontres entre sud-africains et congolais qui se tiennent depuis 2009 à Lubumbashi et Kinshasa. Les exportations annuelles de l'Afrique du Sud vers la RDC atteignent 7 milliards de rand, monnaie nationale de l'Afrique du Sud, et les investissements de plus de 350 millions de dollars dans les secteurs de la petite industrie et du commerce. Le supermarché Shoprite est cité parmi les derniers investissements directs sud-africains à Kinshasa. Après 2 jours à Kinshasa, l'événement s'invite à Lubumbashi dans les Katanga.
Merci beaucoup Paul Matindo. Rencontre entre opérateurs économiques de la RDC et leurs homologues sud-africains. Ils viennent explorer les possibilités, les opportunités d'investissement. Et M. Georges, là, la RDC brandit son secteur agricole. Puisqu'il y a de la terre, puisqu'il faut diversifier l'objet même de son économie.
Vous savez que nous avons effectivement cette grande opportunité pour notre pays, surtout dans le secteur agricole. Et la République sud-africaine est trop avancée en termes de culture agricole. Lorsque vous avez la chance de visiter l'Afrique du Sud, même quand vous êtes dans l'avion, vous allez voir qu'il y a beaucoup de niveaux, de stands ou de champs agricoles. Faudrait-il encore prendre le véhicule, aller dans les fins fonds de l'Afrique du Sud? Ça peut vous émerveiller, vous fâcher, parce que vous ne pouvez pas retrouver ça chez vous. L'agriculture sud-africaine est vraiment mécanisée. J'ai eu la chance d'entrer dans certains coins du pays, mais je vous dis, ça flatte. Et il faut avoir cet avantage quand ces Sud-Africains veulent faire des échanges commerciaux avec nous. Même si nous, on n'apporte encore rien chez eux, peut-être on apportera après notre électricité ou quoi. Il faut vraiment en profiter. Vous quittez ici jusqu'au Bandundu, mais vous allez vers le Bas-Congo. Vous voyez cet espace vert et libre. Les gens peuvent avoir pris des concessions, mais c'est ridicule.
Non exploité.
Non exploité. Et ce n'est pas qu'on manque de... La Sud-Afrique peut encore manquer d'espace aujourd'hui. Nous, on a encore plein d'espace. Et, mais je pense que c'est très important pour le gouvernement de profiter de cette occasion pour que ces Sud-Africains viennent investir parce qu'il y a de l'espace et nous faisons un très bon partenariat et la République peut en profiter.
Troisième et dernier dossier de la semaine, l'évaluation de la taxe sur la valeur ajoutée TVA était l'une des questions inscrites à l'ordre du jour de la réunion hebdomadaire de la Troïka stratégique. C'était lundi à la primature.
Alors que nous croyons être parfaitement dans le bon avec la TVA, a dit le vice-premier ministre et ministre du budget, il s'avère qu'il y a des problèmes structurels qu'il faudra résoudre. Le propos de Daniel Moukoko Samba au sortir de la réunion de la Troïka.
La taxe sur la valeur ajoutée est un élément important dans notre dispositif fiscal. Mais nous sommes aussi dans la période, on va dire, d'apprentissage, parce que c'est une nouvelle taxe. Il y a des évaluations qui avaient été faites quelques mois après l'introduction de la TVA, qui semblaient indiquer que nous étions plutôt bien partis. Les dernières évaluations montrent qu'il y a quand même quelques problèmes d'ordre structurel, on va dire, surtout en rapport avec la TVA remboursable, puisque c'est un impôt qui est supporté par le consommateur, la TVA qui est collectée est donc une avance que l'agent économique fait à l'État et il se fait rembourser selon les conditions qui sont déterminées par les textes légaux et réglementaires. Et donc il y a quelques problèmes structurels en ce qui concerne la TVA remboursable. Le Premier ministre avait demandé qu'un audit soit fait. On vient d'examiner aujourd'hui le rapport préliminaire de cet audit, mais nous allons attendre le rapport définitif de manière à voir quelles sont les mesures à prendre pour améliorer ce dispositif important de notre système fiscal.
Panorama économique sur Radio Okapi, c'est le rendez-vous de tous les week-ends, de tous les samedis, 12h30, heure de Kinshasa, avec un invité. Notre invité cette semaine s'appelle Georges Bokondou. Il est le chef de bureau de Saroa RDC. Monsieur Georges, c'est avec vous que nous commentons et analysons l'actualité de la semaine. La TVA, nous croyons que tout allait bien, alors qu'il y a des problèmes de fond par rapport à la TVA remboursable. Est-ce que cette taxe touche aussi les activités que vous menez?
Bon, la taxe, nous sommes dans le secteur des ressources naturelles. Je pense que les opérateurs miniers sont aussi, d'une manière ou d'une autre, touchés dans d'autres domaines de fiscalité. Mais il faut noter qu'ils sont d'abord dans ces régimes miniers qui est spécial et des régimes de droits de fiscalité qui sont bien organisés dans les codes miniers. Mais ce que j'aime peut-être au gouvernement, c'est de reconnaître cette faiblesse, cet apprentissage, et il faut juste l'encourager de faire tout pour améliorer et corriger les faiblesses. Parce que les problèmes structurels, quand ça doit persister, ce n'est pas bon. Il faut vite réfléchir et trouver des mécanismes pour qu'on corrige une fois pour toutes. Parce qu'effectivement, tout le monde, tous les pays attendent que la TVA puisse apporter un plus dans la caisse de l'État, maximiser les recettes de l'État.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Les autres informations de la semaine, en bref, le collectif des travailleurs des 24 entreprises du secteur privé licenciés abusivement sollicite l'implication du représentant du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Plusieurs dizaines de ces travailleurs se sont retrouvés ce mardi à Kinshasa devant le quartier général de la MONUSCO. Selon Jean-Marie Lokoto, président de ce collectif, c'est la Fédération des entreprises du Congo, FEC, qui serait à la base de cette situation. Les patrons ont refusé de réhabiliter les agents à leur poste et de payer les droits des autres tels que recommandés par un décret du gouvernement. À la FEC, on nous apprend que le répondant à cette préoccupation est actuellement aux concertations nationales.
Le ministère du Plan a lancé mardi à Kinshasa la première enquête de référence dans le cadre de la mise en œuvre du partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement. Au nombre de questions que ce partenariat soulève figure la problématique de l'aide au développement que le partenaire bilatéraux et multilatéraux accorde à la RDC. Et selon Sadok Biganza, vice-ministre du Plan, le gouvernement congolais est justement en voie de mettre en place des structures qui devront désormais se charger de la coordination de l'aide extérieure.
Kasaï Occidental, le gouvernement provincial rappelle à l'ordre les structures à caractère agricole qui ont reçu l'appui financier du gouvernement central. Le ministre provincial de l'agriculture l'a dit mardi dans un point de presse animé à Kananga. Adrien Bokele a indiqué que la somme d'1,5 milliard de francs congolais a été remise à l'ensemble de ces structures. Cet argent était destiné à la campagne agricole 2013-2014. Il a ajouté que les bénéficiaires ont signé un contrat de performance avec le gouvernement provincial et central. Ainsi, un contrôle sera amorcé pour se rendre compte de l'effectivité et du rendement de ces structures d'après les clauses de ce contrat.
Rendons-nous compte où 20% seulement des véhicules sont assurés dans la ville de Lubumbashi malgré la campagne de sensibilisation menée durant 2 mois par la Société Nationale d'Assurance. Déclaration faite mardi à Radio Okapi par la directrice de la SONAS, agence de Lubumbashi. Pour Emérance Mouleka, il y a nécessité d'organiser une campagne de recouvrement forcé dans la ville de Lubumbashi.
Les agriculteurs du territoire de Songololo, situé à 80 km à l'est de Matadi, nous sommes dans le Bas-Congo, éprouvent d'énormes difficultés pour l'évacuation de leurs produits agricoles vers le marché de négoce. Ibrahim Manzoukoulou, porte-parole de ces paysans, affirme que cette situation est due à l'état de délabrement dans lequel se trouve la quasi-totalité des routes de dessertes agricoles de ce coin du Bas-Congo.
Les riziculteurs de la plaine de la Ruzizi à Uvira, au sud Kivu, indignés par la baisse des ventes de leurs récoltes depuis plus de 2 mois. Dans une déclaration il y a 2 jours, ils justifient cela par la réduction des achats du riz par la Bralima. Cette société est le grand acheteur du riz dans la plaine de la Ruzizi. Ils parlent aussi de la concurrence du riz en provenance de la Tanzanie. Sur les marchés de la plaine de la Ruzizi, malgré la baisse du prix du sac de riz, les acheteurs deviennent de plus en plus moins nombreux.
Le comité des creuseurs artisanaux du carré minier de Mukungwe invite ses membres à vaquer à leur activité dans le strict respect des directives de la société Banuro en cette phase d'exploration. Cette dernière est désormais titulaire des droits miniers sur les carrés de Mukungwe. Ce comité invite tous les creuseurs à se mettre sérieusement au travail dans une discipline et une franche collaboration entre eux afin de jouir de l'opportunité leur offerte par la société titulaire.
Une délégation d'hommes d'affaires polonais séjourne en Bandaka depuis lundi. Elle est conduite par le président du groupe Pologne-Congo Group. Au sortir de l'audience que le gouverneur ad intérim Sébastien Impeto leur a accordé, Benny Gaston Benga, représentant en RDC de Poloco Group, a dévoilé les domaines qui intéressent les investisseurs polonais à l'Équateur. Le secteur des transports les intéresserait aussi.
15 millions de dollars américains, c'est le coût globale des projets d'investissement pour la province du Bandundu. Cette information a été annoncée ce jeudi à Kinshasa au cours d'un point de presse tenu par le gouverneur de cette province. Il s'agit des projets de grandes infrastructures, notamment la construction d'une quarantaine d'écoles primaires techniques et professionnelles, une dizaine de villages modernes à vocation agricole, ainsi que la construction de la cité de Trois-Rivières. Ces travaux seront financés par le gouvernement central, a précisé Jean Kamisendou. Et voilà, c'est la fin de cette série d'infos de la semaine. Monsieur Georges, vous commentez l'actualité avec nous. L'une ou l'autre de ces informations retient votre particulière attention?
Bon, ce qui retient ma particulière attention, c'est peut-être, je peux considérer nos collègues de Mukungwe, qui sont dans une concession qui appartient à une entreprise minière. Effectivement, le président les appelle, surtout pour les creusers, à bien profiter de l'occasion que l'entreprise offre, si c'est vrai, parce qu'il faut vérifier si Banro a laissé la liberté pour que les creusers utilisent d'abord la petite mine qui est là pour en profiter et puis avoir un peu de... Il faut juste les recommander, effectivement, dans le cadre de la collaboration qu'ils doivent maintenir avec les propriétaires de la concession, à bien se mettre dans la bonne collaboration. Ça m'intéresse particulièrement. Le reste, si je prends les 15 millions qu'on offre du pour la promesse de Bandundu, c'est juste demander à ceux qui, effectivement, lorsqu'on a un investissement comme ça, il faut qu'un plan soit bien détaillé, bien planifié, de sorte que l'argent est affecté à des projets qui doivent donner des résultats probables. Vous voyez qu'on a donné des millions ou des milliards en termes de l'appui à l'agriculture à un moment donné. Mm-hmm. Si on n'a pas de plan, on risque d'avoir au Cassa occidental un contrat qu'on a signé mais qui n'est pas exécuté.
Matière première.
L'exploitation artisanale de l'or dans l'est de la RDC est caractérisée par la pauvreté, les abus et l'écroulement des structures familiales et communautaires. C'est ce que révèle un rapport de l'organisation de l'ONG Observatoire des ressources naturelles en Afrique, rendu public lundi à Kinshasa. Ce rapport intitulé « Le coût de l'or » concerne les femmes et les autres catégories sociales vulnérables qui sont dans les carrières minières. Selon Georges Bokungu, chef du bureau de cet observatoire, il y a urgence que le gouvernement et la communauté internationale trouvent une nouvelle approche pour encadrer les communautés impliquées dans l'exploitation minière.
Et vous aurez compris, François, pourquoi nous avons invité M. Georges dans cette émission. C'est pour avoir le cœur net sur ce rapport publié par l'observatoire, et M. Georges Bokungu est avec nous dans ce studio. Qu'est-ce que vous voulez dire en plus bref à travers ce rapport, M. Georges?
Écoutez, nous avons mis en place un projet sur le monitoring de l'eau. Nous avons mis en place un groupe de chercheurs qui ont circulé dans des sites importants de l'eau. Ça, c'est le deuxième rapport, parce que le premier rapport a montré comment, à un moment donné, il y avait plus les groupes armés dans les carrières minières, et qu'aujourd'hui, il y a la plus grande partie de notre territoire qui n'est plus entre les mains des groupes armés. C'est là où il faut chasser l'esprit des minéraux, des conflits des minéraux, et que les minéraux soient propres. Mais qui, maintenant, entre les mains des services de l'État, et les creusers ont eu des problèmes dans le premier rapport. Ce deuxième rapport parle effectivement du coût de l'or. Ce n'est pas en termes de chiffres. Mm-hmm. Ici, ça représente trois faits, tels que vous l'avez énuméré. La pauvreté, les abus et l'écroulement familial.
Donc, comment vous pouvez expliquer ces abus et l'écroulement familial?
Si je peux commencer d'abord par la pauvreté. Parce que la pauvreté, c'est l'essentiel. C'est que lorsqu'on part dans une carrière minière, on a l'espoir d'avoir des revenus. Et puis, changer un peu le monde de vie. Malheureusement, les constats faits par nos chercheurs montrent que la vie ne change pas. La pauvreté est là. Elle se maintient. Même si on peut trouver quelque chose en termes de revenus, après avoir vendu quelques kilos ou grammes d'or, la pauvreté demeure. Les habits, celui qui a l'argent a plus tendance de montrer qu'il a l'argent et détruit même son propre corps avec l'alcool. L'alcoolisme règne dans la forêt. Et là où il y a l'alcoolisme,
les petits revenus ne leur profitent à rien.
Non, c'est plus les vendeurs de boissons qui profitent de ces revenus-là. Celui qui vient vendre, malheureusement, comme c'est le troisième problème, la famille est détruite. La famille est détruite parce que la femme n'a plus la stabilité de son mari. La femme est abandonnée quelque part parce que le creuseur qui a l'or, qui a trouvé une grande quantité d'or, il devient un PDG. Nous l'avons appelé le PDG momentané. Et à ce moment-là, il est riche, il fait tout ce qu'il peut faire. Il oublie la famille.
Et en deux jours, il redevient ce qu'il était avant.
Quelques temps après, le cercle vicieux revient. C'est l'éternel recommencement. Parce qu'il veut chercher encore à trouver.
Et à ces mots que vous avez relevés, et si vous avez proposé des pistes de solutions.
Oui, c'est la première piste, c'est que l'État ou le législateur a mis en place une loi avec des mécanismes. Si vous lisez les premiers rapports, on est revenu sur la structure de l'État qui doit organiser, c'est-à-dire les CSCAM.
Mais ça n'arrive pas encore.
Les CSCAM, est-ce qu'il a tous les moyens aussi? Ça, c'est parce que dans notre rapport, nous avons recommandé à l'époque, ou soit on supprime les CSCAM, ou on lui donne réellement les moyens pour que les services de l'État encadrent ceux qui sont dans la forêt. Parce que les CRESER, leur objectif avec la loi, c'est de se transformer en coopérative. Ils sont en groupe. C'est rare de trouver un seul creuseur dans une seule carrière. Ils sont toujours nombreux. Donc on peut les organiser. Ils créent une coopérative. Ça devient une petite société. Et lorsqu'on a une société, on s'organise. Il y a un administrateur, il y a un comptable. Et avec ça, on peut faire des petites activités de développement. Et on peut quitter cette pauvreté un tout petit peu pour commencer à profiter de cette économie qui était petite ou individuelle, qui devient une économie générale à un groupe de gens. Et on peut faire les contrôles. Voilà un peu la plupart des recommandations. On voudrait, dans les rapports aussi, demander à ceux-là, comme le gouvernement, comme la communauté internationale et d'autres, de voir dans quelle mesure on peut organiser les femmes qui sont vulnérables, effectivement, qui vivent des conditions un peu compliquées, qui peuvent faire des petites activités d'agriculture, mais qui n'est pas suffisante. Qu'on leur accorde certains appuis qui peuvent leur apporter à amener à moderniser leurs activités agricoles. Et à ce moment-là, les enfants ne vont pas venir à la mine. Les enfants vont rester à l'école parce que la maman a un peu de moyens. Le souci, c'est de ne pas avoir les enfants dans la mine.
C'est que le rapport regrette le contraste entre la richesse et la pauvreté.
C'est une lamentation de tous les jours, même si on ne les dit pas, on ne les trouve pas seulement dans ces rapports, mais c'est le grand souci. Vous savez, lorsque vous êtes dans des grandes conférences au niveau mondial, on vous dit toujours que les scandales géologiques, c'est la RDC, les scandales géologiques. Effectivement, on ne veut plus parler des scandales. Nous avons cette potentialité, mais il faut mettre ces potentialités en valeur. Il faut valoriser ça, il faut développer. C'est pour cela que quand nous avons vu les investisseurs qui viennent dans l'aspect agricole, nous avons des investisseurs dans l'aspect mine. Mais il faut effectivement qu'on ait des vrais investisseurs qui vont aller partout. C'est pas seulement dans une province. Parce que les pays ont toutes ces potentialités. Chaque province au moins a une potentialité. Qu'on peut bien développer, on peut changer les choses. Là où il y a la carrière artisanale, comme on dit à Mukungwe, au Sud Kivu, c'est une grande carrière. Mais c'est dans une concession d'une entreprise. Il faut que demain l'entreprise développe cette mine-là. Parce que la mine, avec l'exploitation artisanale, il n'y a rien de concret qui peut développer les pays. Mais si on passe à une exploitation industrielle, même les propres villageois de Mukungwe pourront, même s'ils ne vont pas se retrouver tous les jours avec les 1 gramme ou quoi, mais ils pourront voir leur village se développer un tout petit peu.
Monsieur Georges, nous tendons vers la fin du panorama économique de cette semaine. Sans bien vouloir vous voler la primeur de cet autre rapport que vous voulez publier, parce que j'ai vu devant vous un autre rapport en dehors de celui que vous avez publié le lundi de la semaine qui s'achève. Vous avez un autre rapport à publier?
Oui, nous allons publier notre. C'est pas tellement une publication au même titre que les titres sur l'or, mais c'est un rapport que nous avons organisé une conférence sur les accords de paix et les minerais de conflit. Le rapport est sorti et nous allons le mettre à disposition tant du gouvernement que de toute l'Afrique pour lire les recommandations que quelques élites congolaises ont pu faire pendant cette conférence. Il y a de très bonnes recommandations quand même. Je préfère que les gens lisent et les autorités lisent ça. Ça peut inspirer beaucoup de choses.
Et justement, vous préférez que les gens lisent, comment ils peuvent trouver vos rapports pour les lire?
Nous avons notre site www.sarawatch.org. Il y a beaucoup de nos rapports là-bas. Même tous les rapports sur l'or, ça se trouve là-bas.
Merci beaucoup, Monsieur Georges Bokundou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos auditeurs que Monsieur Georges est le chef de bureau de l'Observatoire des ressources naturelles de l'Afrique australe. Il dirige le bureau de la RDC. C'est avec lui que nous avons commenté, analysé l'actualité économique de cette semaine. Monsieur Georges, merci.
Merci beaucoup. Merci.
Et nous espérons vous avoir dans les jours qui viennent. Devant le micro, c'était Daniel Tambinzoni et François Kadima. Dieudonné Nyangasa a assuré la prise de son. Merci de nous rester fidèles. L'actualité économique sur Radio Kapi de lundi à vendredi, 18h15, heure de Kinshasa. Et votre émission, vous la retrouvez toute la semaine sur www.radiookapi.net dans la rubrique économie. Très bonne suite de programmes sur Radio Okapi.